Chapitre 4. Après un long voyage, les comédiens arrivent à Paris et se rendent dans un hôtel fréquenté par toutes sortes de voyageurs. Avant de s'installer dans leur chambre, ils doivent attendre un peu dans une grande cuisine où on prépare différents mets. Au moment où un valet vient leur dire que leurs chambres sont prêtes, un voyageur entre dans la pièce et s'approche de la cheminée. Cigognac regarde discrètement l'homme, car il a le sentiment de l'avoir déjà vu, mais il ne se souvient pas où. Le baron va conduire Isabelle à sa chambre, puis, en se dirigeant vers la sienne, il croise le voyageur de la cuisine. Il continue à penser qu'il le connaît. Le lendemain, au déjeuner, Hérode propose à Cigognac d'aller visiter Paris. Avant de partir, le baron recommande à Scapin d'être vigilant, car il pense que Vallombreuse va de nouveau essayer de s'en prendre à Isabelle. Après avoir vu différents endroits célèbres, les deux compagnons arrivent au pont Neuf. Là, ils entendent un vacarme à l'autre bout du pont. Il s'agit de quatre hommes qui simulent une querelle et se battent à l'épée en criant
« Tue, tue !»
Les deux amis décident de ne pas trop s'approcher d'eux, mais Cigognac, de loin, croit reconnaître deux des hommes qui l'ont attaqué dans la rue, à Poitiers, et un troisième qui n'est autre que le voyageur de l'hôtel. Il en est sûr. Vallombreuse les poursuit. Il communique son soupçon à Hérode.
« C'est possible, » dit Hérode. « Vallombreuse doit sûrement vous en vouloir et a envoyé des hommes pour vous suivre. Ils ont monté cette mascarade pour vous attirer vers eux et sans doute se venger. Rentrons à l'hôtel, ce sera plus prudent. »
« Cela me répugne, » répond Cigognac, « de voir un gentilhomme capable d'agir ainsi pour se débarrasser de son rival. S'il n'est pas satisfait de notre première rencontre, je suis prêt à me battre à nouveau avec lui, jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. C'est ainsi que les choses se passent entre gens d'honneur. »
Ils reprennent alors le chemin de leur auberge. Rien de particulier n'a eu lieu pendant leur absence. Cigognac retrouve Isabelle tranquillement assise à table devant un appétissant potage. En le voyant, elle lui tend la main avec un beau sourire. Le baron a en effet raison. Le duc de Vallombreuse s'est rendu à Paris. Certes, il hait mortellement Cigognac et veut se venger de lui, mais il éprouve une telle passion pour Isabelle qu'il tient absolument à la conquérir. Il décide alors de changer de tactique. Ce jour-là, il fait venir son laquais et lui dit « Picard, il faut te surpasser et me faire une toilette triomphante. Je veux être plus beau que Buckingham, essayant de plaire à la reine Anne d'Autriche. » Le duc, qui est naturellement beau, se transforme, grâce aux soins de son laquais, en un jeune dieu grec. Un quart d'heure plus tard, il arrive dans son plus beau carrosse devant l'auberge où loge Isabelle. On le conduit aussitôt jusqu'à la chambre de la jeune femme. Là, on lui demande « Qui ai-je l'honneur d'annoncer ?»« Vous pouvez vous retirer maintenant, » répond Vallombreuse. « Je m'annoncerai moi-même. » Isabelle, assise près de la fenêtre sur une chaise haute, est en train d'étudier le rôle qu'elle doit tenir dans la nouvelle pièce. Les yeux fermés, elle répète à voix basse, comme un écolier sa leçon, les 8 ou 10 vers qu'elle vient de lire plusieurs fois. Elle est d'une beauté éblouissante. Croyant qu'il s'agit d'une fille de chambre qui vient d'entrer pour les besoins du service, elle ne bouge pas et continue à répéter ses rimes. Elle est d'ailleurs confiante. Que peut-il se passer en plein jour dans cet hôtel? De plus, ses camarades sont près d'elle. Il n'y a donc aucun danger. Vallombreuse s'est avancée jusqu'au milieu de la chambre. Il a mis un genou à terre et attend tranquillement. Isabelle tourne enfin la tête et voit le duc de Vallombreuse agenouillé à 6 pas d'elle. Elle reste pétrifiée, les yeux dilatés de terreur, la bouche entrouverte, sans pouvoir faire un mouvement ni pousser un cri.
« Je vous inspire donc une terrible horreur ?» dit Vallombreuse sans quitter sa position et de sa voix la plus douce.
« Si ma vue seule vous produit un tel effet. »
« De grâce, monsieur le duc, relevez-vous, » dit la jeune comédienne. « Cette position ne vous convient pas. Je ne suis qu'une pauvre actrice de province et mes faibles charmes ne méritent pas une telle conquête.
Ne craignez rien, dit le duc. Je ne demande qu'une chose. Permettez-moi de vous faire la cour, comme font les amants les plus respectueux.
Oubliez-moi, répond Isabelle, et j'aurai pour vous une immense reconnaissance.
Jusque-là, le duc de Vallombreuse s'est contenu, mais la résistance respectueuse et ferme d'Isabelle commence à le mettre en colère. Il sent un amour derrière tout cela, et sa jalousie grandit.
« En réalité, reprend-il d'une voix altérée, vous êtes folle de Cigognac. Voilà la raison de votre attitude envers moi. Qu'a-t-il donc pour vous charmer de la sorte? Ne suis-je pas plus beau, plus noble, plus riche, aussi jeune, aussi spirituel, aussi amoureux que lui ?»«
Il a du moins, répond Isabelle, une qualité qui vous manque, celle de respecter ce qu'il aime. »
« C'est qu'il n'aime pas assez, » dit Vallombreuse en prenant Isabelle dans ses bras.
Au même instant, la porte s'ouvre. Le tyran pénètre dans la chambre et s'avance vers Isabelle. Aussitôt, Vallombreuse lâche la jeune femme avec rage.
« Pardon, mademoiselle, » dit le tyran, « mais l'heure de la répétition a sonné et l'on n'attend plus que vous pour commencer. » En effet, à la porte se tiennent le pédant, Scapin, Léandre et Zerbine, qui forme un groupe rassurant pour la défense d'Isabelle. Vallombreuse sort de la pièce sans un mot. Mais il ne va pas en rester là. À Paris, la troupe connaît un grand succès. Un jour, le majordome d'un comte, le comte de Pomeroy, vient inviter la troupe à donner une représentation dans son château qui se trouve près de Paris, à une journée de voyage. Les comédiens, ravis, se mettent en marche le lendemain. Hérode a loué une charrette avec de bons chevaux pour le voyage. La route est belle et peu fréquentée. Les comédiens voient de temps en temps un lapin traverser à toute vitesse le chemin qu'ils suivent. Cigognac, qui aime beaucoup la campagne, propose à Isabelle de descendre de la charrette et de faire un bout du chemin à pied. La jeune comédienne, enchantée de pouvoir être seule avec le baron, accepte l'offre de Cigognac. Ils marchent côte à côte en se tenant par la main. Cigognac, heureux, ne cesse de dire à Isabelle combien il l'aime. Les jeunes gens s'arrêtent de temps en temps et restent un moment à se regarder avec amour. Ils sont un peu plus loin que la charrette quand ils voient au bord du chemin un vieil homme aveugle, accompagné d'un jeune garçon resté là, sans doute, pour demander la charité aux voyageurs. Quand ils arrivent près du vieil homme, celui-ci, averti par son guide, commence à les supplier de leur donner une petite aide. Isabelle se sent touchée par l'aspect de ces pauvres gens et elle s'arrête devant l'aveugle. Elle cherche sa bourse pour lui donner quelque chose, mais comme elle ne la trouve pas, elle demande à Cigognac de bien vouloir leur donner une pièce. Le baron s'approche du vieillard et c'est alors qu'il se passe une chose incroyable. Le mendiant, qui était tout courbé, se redresse, prend son manteau et le jette sur la tête de Cigognac. Le baron est comme prisonnier. Isabelle, épouvantée, veut crier, fuir, appeler au secours. Mais elle ne peut rien faire, car tout à coup, elle se sent soulevée de terre. Le vieil aveugle, devenu, en une minute, jeune et fort, l'a prise sous les bras pendant que le jeune garçon lui soutient les jambes. En un moment, il l'emporte en courant hors du chemin. L'homme conduit Isabelle jusqu'à un carrosse qui part à toute vitesse vers un lieu inconnu. Après un long trajet, ils arrivent dans la cour d'un château. L'homme remet alors Isabelle aux mains d'un laquais qui l'emmène aussitôt dans une chambre, puis sort. Là, la jeune femme examine la pièce et à sa grande surprise, elle découvre Chiquita habillée en garçon et cachée près de la cheminée.
« Que fais-tu ici ?» lui demande Isabelle après un moment de silence. « Tu es chargée de me garder ?»«
Non, » répond Chiquita. « En réalité, je suis toujours auprès de vous. Je vous suis partout pour te protéger. »«
Tu n'as pas peur de vivre ainsi, seule, sur les chemins ?»«
Chiquita ne connaît pas la peur. Et puis, j'aime être à côté de toi. »
Tu es belle, et cela me plaît de te voir.
Comme ta main est blanche, et tes cheveux sont fins comme de la soie. Moi, je suis bien laide, n'est-ce pas?
« Non, chère petite, » répond Isabelle, touchée par cet enfant sauvage. « Tu as ta beauté aussi. » En entendant cela, le visage de Chiquita s'éclaire.
« Mais dis-moi, Chiquita, sais-tu où nous sommes ?» demande Isabelle après un silence.
« Dans un château qui appartient au seigneur, qui a tant d'argent et que tu as déjà vu à Poitiers.
Et ce château où l'on me tient prisonnière est loin de Paris ? Connais-tu son nom ?»«
Il s'appelle... Comment déjà ?» répond la petite en se grattant la tête.
« Essaie de te rappeler, mon enfant, » dit Isabelle en caressant de la main la joue de Chiquita, qui rougit de plaisir à cette caresse, car jamais personne n'a été tendre avec elle.
« Je crois que c'est Vallombreuse, » répond Chiquita.
« Oui, Vallombreuse, j'en suis sûr maintenant, le nom même du seigneur que ton ami, le capitaine Fracasse, a blessé en duel. Ce duc est très méchant. Tu le détestes, n'est-ce pas ? Et tu serais bien contente de lui échapper ?»«
Oh oui. » »«
Mais c'est impossible, » dit tristement la jeune comédienne.
« Je vais te sortir d'ici, crois-moi, » répond la fillette avec énergie.
Sur ce, elle s'approche de la fenêtre, observe un moment l'extérieur et disparaît soudainement. Isabelle, affolée, se penche à la fenêtre et voit la petite en train de descendre d'un arbre puis de partir en courant. Elle ferme aussitôt la fenêtre, soulagée, et s'assoit sur une chaise pour reprendre ses esprits. Peu après, le laquais entre et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Isabelle répond d'une voix faible que non. Épuisée par ces événements, elle finit par se coucher et parvient à s'endormir. Toute la nuit, elle ne fait que des rêves étranges et elle se réveille le lendemain, très agitée. Soudain, elle entend le bruit d'un carrosse qui arrive très vite dans la cour. Pour entrer de cette façon si magistrale, il ne peut s'agir que du duc de Vallombreuse. « Je t'en supplie, Chiquita, amène du secours !» se dit Isabelle, toute pâle. Une demi-heure plus tard, le laquais entre dans la pièce et lui demande si elle peut recevoir Monsieur le duc.
« Je suis prisonnière, » répond Isabelle avec dignité. « Je n'ai donc aucun moyen d'empêcher le duc d'entrer dans cette chambre. »
Le laquais se retire et revient peu après pour annoncer le duc de Vallombreuse. Elle, le voyant, Isabelle tressaillit. Le duc, sans s'approcher d'elle, lui dit d'une voix douce. « Si ma présence est trop pénible pour vous, charmante Isabelle, je peux me retirer et revenir plus tard.
Votre amabilité ne sert à rien après la violence que vous avez exercée contre moi.
Vous me détestez à ce point ? Dit le duc avec un léger tremblement dans la voix.
« Si vous voulez gagner mon estime, monsieur, je vous en prie, rendez-moi ma liberté et faites-moi reconduire auprès de mes amis, qui doivent être morts d'inquiétude. »
« Madame, vous resterez ici le temps qu'il le faut, car je sais que bientôt vous allez me déclarer votre amour pour moi. » Puis il salue la jeune femme et sort. Dans l'après-midi, une fille de chambre lui apporte un beau bouquet de fleurs de la part du duc. Puis on lui sert un délicieux dîner. Isabelle mange, mais sans appétit. Après le repas, le duc revient voir la jeune comédienne. Cette fois, il n'a pas la voix douce. Il s'impatiente. « Vous allez m'aimer de gré ou de force, » lui dit-il. « Parce que je le veux, parce que vous êtes jeune et belle et que je suis jeune et beau. » Vous avez la chance d'être aimée par le duc de Vallombreuse. Combien de femmes aimeraient être à votre place ?
« Je ne vous aime pas, monsieur, » dit Isabelle.
« C'est ainsi. J'aime Sigognac. Lui seul mérite mon amour. » À ces mots, Vallombreuse pâlit de rage, attrape le bras d'Isabelle et met la main à son épée. L'idée de tuer Isabelle lui traverse un instant l'esprit. C'est alors qu'on entend un énorme bruit et l'arbre par lequel Chiquita s'est échappé la veille brise la fenêtre et entre dans la chambre. C'est Sigognac qui vient de le scier. Vallombreuse, surpris par l'irruption, lâche la jeune comédienne et prend son épée. Chiquita, qui est entrée sur la pointe des pieds,
légère comme une ombre, tire Isabelle par la manche et lui dit « Cache-toi derrière ce meuble, la danse va commencer !» La petite dit vrai. Deux ou trois coups de feu retentissent alors dans le silence de la nuit. On entend des cris et des bruits d'épée. Après un dur combat, Cigognac et ses amis parviennent à sauver Isabelle et la font sortir de la chambre. Tout à coup, on entend des bruits dans l'escalier et quatre laquais apparaissent, suivis d'un homme vêtu de noir.
C'est le prince de Vallombreuse, le père du duc.
En voyant Isabelle, soutenue par Hérode et Cigognac, si pâle qu'elle a l'air d'une morte, le prince prend aimablement la main inerte de la jeune femme. Sur cette main blanche brille à l'annulaire une bague ornée d'une magnifique améthyste. Le vieux seigneur, à la vue de cette bague, semble fort troublé. Il reconnaît dans cette bague l'anneau orné d'un blason avec lequel il scellait les lettres qu'il écrivait à Cornelia, la mère d'Isabelle. Son arrivée n'est pas un hasard. Il a appris que son fils a enlevé une jeune actrice et est venu au plus vite mettre fin à cette folie. Comment cet anneau se trouve-t-il au doigt de cette jeune femme ? Se dit-il. Est-ce la fille de Cornelia et la mienne ? Mon Dieu, oui. Elle ressemble à sa mère. Alors mon fils poursuit sa sœur ? Cet amour est un inceste ? Oh, il faut en finir avec tout cela. Il s'adresse à Isabelle et lui demande d'une voix émue. Qui, mademoiselle, vous a donné cette bague qui me rappelle certains souvenirs? L'avez-vous depuis longtemps? Je la possède depuis mon enfance. C'est le seul objet qui me vient de ma mère, répond Isabelle. Et qui était votre mère? Que faisait-elle? Dit le prince. Elle s'appelait Cornelia, dit Isabelle. Et c'est une pauvre comédienne de province qui jouait les reines et les princesses tragiques dans la troupe où je suis encore. Cornelia. Plus de doute, pense le prince troublé. Oui, c'est bien elle. Puis d'un ton calme, il dit à Isabelle. Permettez-moi de garder cette bague. Je vous la redonnerai dès que possible. Puis il s'écrie d'une voix forte.
« Où est Vallombreuse ? Où est ce monstre indigne de ma race ?»
Vallombreuse apparaît à ce moment-là. Il est très pâle et il serre un mouchoir contre sa poitrine, à l'endroit où il a été blessé pendant le combat.
« Monsieur, dit le prince,
votre comportement dépasse les bornes. La séquestration, ce n'est pas de la galanterie et je ne peux excuser votre attitude. » Puis à l'oreille, il lui dit «
« Savez-vous, monstre, qui est cette jeune fille ? Cette Isabelle que vous avez enlevée ? Votre sœur ?
Elle pourra remplacer le fils que vous allez perdre ?» répond Vallombreuse, pâle comme la mort. « Mais qu'avez-vous donc ? » dit le prince en tendant la main vers le jeune duc qui va s'évanouir.
« Rien, mon père, » répond Vallombreuse d'une voix à peine articulée. « Rien. Je meurs. » Et il tombe.
Un médecin ! Un médecin !
S'écrie le prince en oubliant sa colère. Vallombreuse est vite transportée dans une chambre. Le prince dit alors à Isabelle : Restez là, mademoiselle. Votre place est désormais à mes côtés, près de votre père. Puis à Cigognac : Monsieur, vous pouvez partir avec vos compagnons. Isabelle doit rester près de son père. Et ce château sera maintenant sa demeure. » Après avoir salué le prince et lancé à Isabelle un long regard chargé d'amour, le baron part avec ses amis.